il est 12h30 et c'est le journal de la mi-journée avec vous, François Claus. Bonjour François.
Bonjour Johanna, bonjour à toutes, bonjour à tous. 6 ans après le drame de Brétigny, doit-on s'inquiéter en montant dans un train? La SNCF, en cette période de retour en vacances, se veut rassurante, affirme que la sécurité des voyageurs est bel et bien garantie. Et pourtant, les 96 pages du rapport de l'autorité de surveillance de réseau que publient ce matin nos confrères du Parisien posent question. Entre câbles électriques dénudés, victimes des rongeurs et rails déboudonnés, nous allons dans un instant faire le point avec Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Le train des réformes est-il, lui, sur de bons rails? C'est la question que nous poserons dans un instant à Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1, qui nous fera vivre le premier conseil des ministres en cours de la troisième rentrée du président Macron. L'actualité de ce mercredi 21 août, c'est aussi cette situation de sécheresse exceptionnelle dans le Gard, 97 communes placées en situation de crise hydrologique. Un nouvel épisode dans la guerre des gangs du rap. Le champion du monde, Paul Pogba, victime d'insultes racistes, et le bain de mer de tous les bonheurs pour les oubliés des vacances, pris en charge à Deauville par le Secours Populaire. Comme tous les midis, notre conseil lecture du jour, dans les rayons de la librairie Mola de Bordeaux pour une délicieuse plongée dans le fantastique, et la troisième étape corse de notre reporter Romain Noquet au cœur de la France estivale. Sans oublier, bien sûr, la météo du jour. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour François, bonjour à tous.
Vous l'aviez annoncé. Il est là, le temps, le beau temps.
Et oui, et le soleil qui domine sur la majeure partie de la France, malgré quelques passages nuageux inoffensifs. Une inverse est possible encore sur les Alpes du Sud. Et puis c'est tout. Les maximales, elles sont voisines de 21 à 24 degrés près de la Manche, 23 à 29 ailleurs, 30 dans le sud-ouest et 33 près de la Méditerranée.
Météo complète, Valérie, tout à l'heure à 12h58 et à 13h, le meilleur de la France qui bouge avec Elisabeth Assayag.
Europe 1.
C'est un rapport qui n'était pas forcément destiné au public, mais que nos confrères du Parisien dévoilent ce matin. Un rapport signé de ceux qu'on appelle les gendarmes du réseau ferré français, ceux qui, pendant plusieurs semaines, ont inspecté les rails, les postes de signalisation, les passages à niveau dans tout l'ouest de la France, de la Bretagne à l'Occitanie. Force est de constater que 6 ans après le drame de Brétigny, qui avait causé, rappelons-le, la mort de 7 voyageurs, toutes les leçons ne semblent pas avoir été retenues. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour François.
Alors question directe, avant d'entrer dans le détail des anomalies constatées, est-ce qu'on doit s'inquiéter singulièrement cette période de retour de vacances en montant dans un train, Aurélien?
Alors non, tout simplement parce que les gendarmes du ferroviaire auraient demandé des mesures conservatoires d'urgence. Et là, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, du côté de la SNCF, on se veut rassurant en répondant qu'il s'agit d'un rapport comme il y en a des dizaines chaque année, que jamais il n'y a eu autant de moyens mis sur la surveillance du réseau, 300 millions d'euros par an, et surtout que les événements de sécurité qui pourraient mettre en danger les passagers sont en baisse de 30% depuis 4 ans. Malgré tout, il y a ce constat partagé par tous, il y a eu un gros manque d'investissement sur le réseau depuis une bonne trentaine d'années, notamment sur des petites lignes. Et c'est ce que regrette Florent Monteillet, secrétaire général adjoint de l'UNSA Ferroviaire.
Depuis 2014, on interpelle le gouvernement sur le manque de financement pérenne que lui-même affecte au système ferroviaire. Et donc là, on se rend compte que le manque de financement pérenne a des conséquences.
L'UNSA, deuxième syndicat de l'entreprise, dénonce tout de même ce qui pourrait ressembler à du SNCF bashing. Et puis la compagnie, il faut bien le dire, ce serait bien passé de la révélation d'un tel rapport.
Alors il reste Aurélien, on va entrer dans le détail maintenant, que l'inspection du réseau révèle des failles qui posent question.
Oui, principalement des défauts de maintenance récurrents que l'on signale depuis des années et des années. Parce que c'est sûr que si je vous dis fil électrique rongé sur un passage à niveau, c'est ce qui a été constaté en Haute-Vienne, ou câble défectueux réparé au bout d'un an seulement, ou encore des boulons desserrés sur des rails. Ce n'est évidemment pas très rassurant. Les enquêteurs ont également pointé plus de 400 anomalies de signalisation électrique qui pouvaient avoir un impact sur la sécurité des trains. Et 20% de ces anomalies ont été traitées au-delà des délais réglementaires.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1, merci.
Europe 1.
Europe 1, il est 12h34, la suite de votre journal de la mi-journée, François Claus.
Ce fut l'un des plus brûlants foyers de France lors des deux épisodes caniculaires de l'été, le département du Gard, où le thermomètre a atteint, rappelons-le, les 46 degrés. Le Gard qui a subi, autour de la commune de Générac, le plus grave incendie de l'été, 1000 hectares partis en fumée. Le Gard qui est maintenant, depuis ce matin, en situation dite de sécheresse exceptionnelle. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour François.
Et ce sont, pour être concret, une centaine de communes du département qui vont fermer drastiquement le robinet.
Oui, 97 précisément. On parle même de crise hydrologique. La faute à des températures très élevées couplées à un manque de pluie. La préfecture du Gard a donc pris un arrêté sécheresse. Résultat, ces communes sont concernées par des mesures de restriction d'eau très strictes. Interdit de remplir sa piscine, de laver son véhicule, d'arroser son jardin. Les agriculteurs ne sont autorisés à utiliser l'eau que pour abreuver leur bétail. En fait, seuls les usages prioritaires sont autorisés, c'est-à-dire les usages liés aux exigences de santé, sécurité et salubrité publique. Michel Febrer est maire de Congény, l'une des communes en situation de crise.
Ce qui inquiète tout le monde, c'est la répétition maintenant de ces épisodes de très grosse chaleur. On informe la population des mesures de restriction qui sont mises en place par la préfecture. C'est compliqué d'aller voir si quelqu'un remplit sa piscine. Par rapport à tout ce qu'on nous demande, on n'a pas les moyens justement de contrôler.
Et justement, des contrôles sont prévus de jour comme de nuit pour faire respecter l'arrêté préfectoral et les mesures de restriction d'eau. Et la situation n'est pas près de s'arranger. Météo France prévoit encore des températures élevées pour les prochains jours dans le département, mais toujours très peu de précipitations.
Merci Sophie Echen. La guerre des gangs du rap, nouvel épisode, point d'interrogation. Bonjour Guillaume Biet.
Bonjour François.
Du service police-justice d'Europe 1, et c'est vous qui avez révélé ce matin cette information. La superstar du rap, Booba, préparait le tournage d'un clip dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, un tournage de nuit. Soudain, ce n'est plus un clip, mais bel et bien une attaque en règle. Qui se déclenche, Guillaume ?
Oui, avec pour décor un terrain désaffecté près de l'autoroute A3 dans une zone industrielle d'Aulnay-sous-Bois. C'est là que Booba et son équipe tournaient une séquence de leur prochain clip. Quand vers minuit, 5 voitures ont surgi, une quinzaine de personnes en sont descendues d'après les témoins de la scène. Les agresseurs étaient armés de battes de baseball et d'au moins une arme à feu. Et ils ont tiré. Un membre de l'équipe de Booba, un homme de 36 ans, a été touché à 4 reprises, blessure aux jambes. Il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Au moins 2 autres personnes ont été blessées, frappées, dont le réalisateur du clip. Le rappeur, lui, a échappé à l'attaque. Il venait tout juste de quitter les lieux lorsque les agresseurs sont arrivés. Pas d'interpellation. Les suspects s'étaient enfuis avant l'intervention de la police. Le parquet de Bobigny a évidemment ouvert une enquête. Les vérifications au recueil de témoignages sont en cours. Aucune piste privilégiée à ce stade par les enquêteurs qui s'interrogent néanmoins sur le lieu de ce tournage. Il est situé à quelques kilomètres à peine de Sevran, le fief d'un autre rappeur. Caris, l'ennemi juré de Booba. Vous savez que les deux stars du rap envisagent de s'affronter publiquement sur un ring. Match retour après leur violente altercation de l'été dernier en plein aérogare d'Orly, ce qui leur a valu à chacun une condamnation à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Alors, est-ce que le tournage de Booba dans ce secteur de la Seine-Saint-Denis a été vécu comme une provocation par des soutiens de Caris ? Ce n'est qu'une simple réflexion d'enquêteur à ce stade, pas encore une piste, même s'il y a quelques minutes, Booba vient de publier un message vidéo sur les réseaux sociaux faisant référence à cette attaque et mentionnant directement son ennemi Caris.
Quand on vous disait la guerre des gangs du rap, ça semble se préciser. Information signée Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1.
À suivre dans votre journal la rentrée d'Emmanuel Macron et son gouvernement.
Le premier conseil des ministres de la troisième rentrée.
Il est midi 39, la suite de votre édition de la mi-journée avec vous François Claus.
C'est la photo de rentrée à l'Élysée aujourd'hui pour le premier conseil des ministres de la troisième rentrée politique d'Emmanuel Macron, cours intermède de politique intérieure dans une séquence très internationale entre Poutine et rendez-vous avec Boris Johnson et avant le G7 pour le président Macron. Cours intermède. Mais il s'agit de lancer le train des réformes de la rentrée. Bonjour Jérémy Baudot.
Bonjour François, bonjour à tous.
Du service politique d'Europe 1, c'est une rentrée évidemment beaucoup plus calme que la précédente, qui avait été marquée par l'affaire Benalla. Mais question Jérémy, n'est-ce pas là le calme avant une potentielle tempête de rentrée ?
Écoutez François, le mot d'ordre du côté de l'exécutif, c'est constance et prudence. Pas question d'avoir l'air d'aborder cette rentrée de manière détendue. Beaucoup de sujets à venir vont créer des troubles dans l'opinion, me confiait ce matin un proche du Premier ministre. Les retraites, la PMA, mais aussi l'hôpital. À l'Élysée comme à Matignon, on sait bien que la colère sociale n'est pas contenue. Les gilets jaunes peuvent réapparaître et l'opposition se remet en ordre de marche. Comme le soulignait un conseiller, les Français sont toujours impatients. Il faut qu'ils puissent voir des résultats concrets dans leur vie quotidienne ainsi que dans leur porte-monnaie. citation. C'est donc tout l'enjeu de cette rentrée, reprendre les réformes, plus sociales, jure-t-on dans les couloirs ici à l'Élysée. C'est l'essence de cet acte 2 promis par le président Macron. Alors, à l'heure où je vous parle, les ministres sont en train de sortir. Vous avez par exemple Christophe Castaner qui est en train de descendre les marches du perron de l'Élysée. On saura d'ici quelques minutes les mots que le président a adressés aux ministres. Ça donnera en partie la tonalité de cette rentrée, sachant que le président, vous le disiez, reste dans une séquence très internationale, avec évidemment 3 jours de G7 ce week-end à Biarritz.
Et ce sont des mots que nous entendrons évidemment avec vous, Jean-Rémy Baudot, dans votre grand journal du soir, entre 18h et 20h tout à l'heure. Merci Jean-Rémy. C'est une immense clameur qui s'est élevée cette nuit sur le port de Lampedusa, dans le sud de l'Italie, quand la centaine de migrants sauvés de la noyade et recueillis sur le bateau humanitaire Ocean Arms ont enfin pu poser les pieds sur la terre d'Italie après le feu vert accordé par le procureur d'Agrigente. En France, c'est la situation des mineurs qui sont en passe de devenir majeurs qui inquiète aujourd'hui les associations. Illustration à Orléans, où quelques 140 migrants mineurs, jusque-là hébergés et nourris en application du droit international, risquent de se retrouver dans quelques jours à la rue parce que devenus majeurs. Reportage sur place, signé Pierre Herbulot.
Il y a 10 jours, Yves était encore mineur. Dans 10 jours, il dormira dans la rue. Pour sa majorité, ce jeune centrafricain n'a plus le droit à une place d'hébergement. À la place, une aide de 420 euros par mois, largement insuffisant pour se loger et s'acheter de quoi manger. Problème, s'il arrête ses études pour travailler, il perd son titre de séjour.
Une semaine après ta majorité, on te dit « bon, ok, tu es majeur, tu vas te débrouiller ». Le 2 septembre, je reprends l'école. En même temps, le 31 août, on me demande de sortir. Donc, on dirait une piège. C'est comme si le piège se referme sur nous. Tu vas à l'école, mais je vais à l'école, je dors où, je fais comment? Ok, si tu veux, tu travailles, mais quand tu travailles, tu peux pas aller à l'école. On est vraiment perdu, on ne sait pas quoi faire.
Dans le département, ils sont 140, tout juste majeurs et dans la même impasse.
C'est-à-dire qu'on applique la loi froidement.
Ségolène Petit fait partie du collectif de soutien aux jeunes étrangers isolés du Loiret qui appelle à manifester cet après-midi.
Oui, c'est violent, c'est ce qu'on dénonce. Enfin, nous, on trouve vraiment ça inacceptable, inacceptable. Yves, il fête son anniversaire dans la rue, en fait, c'est ça, voilà. On leur demande à la fois de devenir autonomes, mais on ne leur donne pas les conditions nécessaires pour le faire.
Une proposition de loi discutée prochainement au Sénat doit prolonger l'accompagnement en hébergement de ces jeunes jusqu'à 21 ans. Un délai qui aurait laissé à Yves le temps de valider un bac pro dans l'électronique, de trouver un travail et, comme il dit, de s'insérer dans la société. Orléans, Pierre Herbulot, Europe 1.
Nous évoquions hier à la même heure le climat d'homophobie qui règne de manière assez malsaine dans les tribunes des stades de foot, nous félicitant du combat, pas forcément gagné, mais bien entamé, contre un autre fléau, celui du racisme. Mais voilà, les fantômes ne sont jamais bien loin. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour François. Bonjour
chef du service des sports d'Europe 1. Oui, voilà que le racisme ressurgit, non pas dans les tribunes, mais sur le net. La cible, un champion du monde. Paul Pogba.
Oui, la scène se déroule lundi soir à Wolverhampton, deuxième journée du championnat anglais. Paul Pogba a l'occasion de donner l'avantage à Manchester United sur pénalty. Le gardien détourne, score final 1-1. Sur les réseaux sociaux, les messages haineux se multiplient à l'encontre du joueur français. Nègre, singe, dégage de Manchester. La riposte ne tarde pas. Le club, le ministre des Sports, les coéquipiers de Pogba montent au créneau. À travers lui, vous nous insultez tous, s'insurge l'attaquant Marcus Rashford. Les dirigeants de Manchester demandent un rendez-vous à leurs homologues de Twitter pour enrayer un fléau qui dépasse largement le cadre de cette triste affaire. Selon l'ONG Kick It Out, les manifestations racistes dans le foot anglais ont explosé l'an passé, plus 43%. Rien que ces derniers jours, deux autres joueurs, l'attaquant de Chelsea Tammy Abraham et le franco-ivoirien de Reading Yakou Meïté, ont été victimes eux aussi de telles insultes. Mais le coup de pied dans la fourmilière le plus efficace vient peut-être de Phil Neville, le sélectionneur de l'équipe féminine anglaise, lassé de l'inaction des patrons des réseaux. Twitter ne fait rien, Instagram ne fait rien, on n'a qu'à tous boycotter les réseaux pendant 6 mois et on verra le résultat.
Eh bien, ça pourrait être éventuellement une arme efficace. En attendant, lui, on l'attendait peut-être du côté du Golfe ou de la Chine. Eh bien non, Franck Ribéry vient de poser ses valises à Florence, en Italie. Il va...
Une autre atmosphère.
Et oui, une autre atmosphère. Il va jouer pendant 2 ans, malgré son âge, 36 ans. Contrat miraculeux à 10 millions d'euros par an pour Franck Ribéry, qui a été accueilli en rockstar du côté de Florence ce matin.
Et dans un instant, dans votre édition de la mi-journée, on va parler de l'initiative du Secours Populaire qui permet à des enfants défavorisés de partir aussi en vacances. Il est Il est 12h47, la suite de votre journal de la mi-journée, François Claus.
Et c'est le grand jour pour ceux qu'on appelle les oubliés des vacances, les enfants pour qui les parents n'ont pas les moyens d'offrir un séjour à la mer ou à la montagne, et que le Secours Populaire chaque année prend en charge pour le grand bonheur d'un bain de mer à Deauville en Normandie. 5000 enfants au total qui viennent de toute la France et à qui le Secours Populaire offre cette journée de rêve. Vous êtes parti ce matin dans l'un de ces bus depuis la Seine-Saint-Denis. Bonjour Yasmina Katou.
Bonjour François.
Et vous êtes, on l'entend derrière vous, les cris de joie, le bruit de la mer sur la plage de Deauville. Oui, le rêve est devenu réalité, Yasmina.
Effectivement, sous un ciel bleu et du soleil, certains découvrent la mer pour la première fois. Sur le sable, les 5000 enfants occupent une grande partie de la plage. Et malgré une légère brise ici aujourd'hui, les bambins profitent d'un bain vivifiant. L'eau claire à 18 degrés n'arrête pas la petite Lilia.
Elle était un peu froide, mais quand on se baigne tout d'un coup, bah elle est un petit peu chaude. En Algérie, on se baignait, mais l'eau elle était un petit peu plus chaude.
Et alors tu vas faire quoi là, du reste de ta journée ?
Je vais bronzer. Après, je vais encore aller dans l'eau.
Et en dehors de l'eau, à marée basse, le sable blanc s'étend à perte de vue. Pour éviter le bain glacé, certains jouent au volet, au foot ou aux raquettes. Frileuse, dans son maillot rose, Ruth s'occupe au bord de l'eau.
On cherche des coquillages. Il y en a plein. Et ils sont très très beaux.
Et alors, t'as trouvé quoi là ? Raconte-moi, ton seau, il est plein.
C'est normal. C'est pour collectionner les coquillages. En plus, on peut faire plein de trucs avec.
Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire avec, toi ?
Un collier de coquillages où je vais faire plein de choses avec.
Les enfants venus de toute la France profiteront de la plage normande jusqu'à ce soir, 17h.
Merci Yasmina Katou, en direct de la plage de Deauville, comme si nous y étions. On va partir en Corse, comme si on y était. C'est notre balade quotidienne, notre photo sonore. Romane Hockey a quitté le Niolle, où elle était hier, le Cap Corse. Elle est allée vers Ajaccio. Qui dit Ajaccio dit ville impériale. Oui, c'est là que est partie l'histoire du célèbre Napoléon, Romane Hockey.
1er décembre 1805, veille de la bataille d'Austerlitz, les soldats napoléoniens se préparent pour la bataille. Tout ça sur la table du salon de Frédéric, plongé dans une maquette un peu spéciale.
J'ai préparé les Playmobil, donc essentiellement des grenadiers.
Une redingote en papier, des uniformes en peinture, Frédéric transforme les vieux Playmobil en soldats, sergents napoléoniens, ou mieux encore.
Celui-ci qui risque de devenir Napoléon, enfin qui l'est déjà, je vais enlever l'élément de sticker Playmobil.
C'est pas rien d'être le Playmobil choisi pour Napoléon, ah vous oui. Le choisissez avec soin.
Et c'est vrai que peut-être entre eux, comme dans une nuit au musée, vous savez, la nuit, ils se mettent en mouvement et il y en a qui disent « Pourquoi on t'a choisi toi ? Pourquoi pas moi ?» voilà.
Frédéric a déjà créé un millier de personnages qu'il expose dans un musée du centre-ville d'Ajaccio.
Voilà, l'ouverture du Naporama, dans les formes.
Imaginez une vingtaine de maquettes avec des armées de Playmobil, sur un bateau lors du siège de Toulon, sur des pyramides en papier mâché pour la campagne d'Égypte. Frédéric fait la visite.
Le 9 mai 1769 a lieu la bataille
Félicitations
de
Fontainebleau. En 1793, la ville de Toulon est tenue par les soldats anglais. Un travail de dingue. Magique.
Oui, je vois, sur des questions.
Oui.
Vas-y, dis-moi.
J'ai rien compris.
Qu'est-ce que t'as pas compris ?
Tout.
Ils sont où les Français là ? Non, c'est les Corses là. Regarde. Oulala, Martin, vous lui avez donné un petit déjeuner ce matin, Martin là ?
Alors pour le petit déjeuner, c'est simple. Direction le cours Napoléon et la pâtisserie Filidori pour déguster leur spécialité.
À la pousse, il ressemblait à un bicorne et je lui ai trouvé son nom. C'est le bicorne napoléonien.
Alors c'est quoi l'histoire de ce gâteau, le Napoléon ?
C'est un gâteau qu'a inventé mon oncle, un gâteau qui vient de Lyon. Je l'ai ramené à la sauce ajaccienne.
C'est une pâtisserie auquel vous êtes peut-être attaché ?
Ah oui, oui. C'est pourquoi vous dites ça ? Parce que je... J'ai les yeux qui brillent quand je dis ça.
Du sucre craquant sur une pâte feuilletée moelleuse, Napoléon lui-même aurait sans doute apprécié.
Sans aucun doute, Romane Hockey, on vous retrouvera demain pour la quatrième étape de vos pérégrinations Corse. Mercredi, c'est jour de cinéma, double dose même on va dire, les sorties du mercredi, plus le festival d'Angoulême où vous êtes. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors parmi les sorties de ce mercredi, il y a une affiche de rêve, Depardieu et Houellebecq, quand un monstre de la littérature rencontre un monstre du cinéma. Nous sommes heureux à Europe 1 d'être associés à cette aventure et nous recevrons ce soir le réalisateur Guillaume Niclou à 19h10. Mais il y a un autre film, Mathieu, qui sort, très remarqué, du grand Arnaud Desplechin, Roubaix une lumière, film noir. Nouveau registre pour Desplechin, Mathieu.
Oui, mais Desplechin reste Desplechin, c'est-à-dire que c'est un film noir, mais sur fond social, sociétal, on est à Roubaix, donc la nuit de Noël. Un commissaire patrouille, il est interprété par Roche Dizem lorsqu'il est appelé dans une cité ouvrière où une vieille dame a été retrouvée morte. Elle gît sur son lit dans sa maison en briques rouges, pas de témoins, peu d'éléments, mais deux voisines, interprétées par Léa Seydoux et Sarah Forestier. C'est le point de départ de l'enquête, mais au-delà de la dimension polar, je dirais, Desplechin livre surtout un portrait du quotidien de cette banlieue ouvrière oubliée. Jamais le commissaire Daoud ne juge ses suspects, il essaie simplement de comprendre, de sonder ce qu'il peut y avoir de pire dans l'âme humaine. Roubaix, une lumière est donc un film sombre, âpre et en même temps très lumineux dans son éclairage, film qui a divisé la critique à Cannes, mais qui, je trouve, mérite qu'on le regarde, ne serait-ce que pour sa mise en scène au cordeau et puis un jeu d'acteur franchement parfait.
Ah oui, Roche Dizem dans un très grand rôle, visiblement. Et puis Mathieu, du côté d'Angoulême, là, on va voir de belles choses à la rentrée, visiblement. Hein.
Oui, à commencer par le film que l'on a découvert hier soir, hein, la nouvelle réalisation d'Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg et un chien, puisque ça s'appelle Mon chien stupide, adapté d'un roman de John Fante, qui raconte l'histoire d'Henri. C'est un écrivain renfrogné, auto-centré, en mal d'inspiration. Il est fatigué, il n'a plus de désir pour sa femme, Charlotte Gainsbourg, donc ses quatre enfants l'exaspèrent. Bref, lorsque débarque dans sa maison et dans sa vie un énorme chien complètement stupide qui bave partout, sauf que ce chien va l'aider à se reconstruire au grand dam de toute sa famille. Voilà, Mon chien stupide, c'est une comédie de couple drôle, fine, qui a été présentée hier soir. Plus de 2000 spectateurs étaient présents. Notez-le, ça sortira le 30 octobre. Et puis aujourd'hui, les festivals vont notamment découvrir le nouveau film de Cédric Clapiche qui s'appelle Deux mois. Il raconte la solitude de trentenaires dans une grande ville, ainsi que le nouveau film de Nicolas Boukrieff, là c'est Trois jours et une vie, porté par Sandrine Bonner et Charles Berling qui sont ici à Angoulême.
On vous l'avait dit, de très belles choses à venir sur nos écrans. Merci beaucoup Mathieu Charrier. Allez, entre deux films, prenez encore le temps d'un livre, celui par exemple que Stéphane Place a déniché dans les rayonnages de la librairie Mola de Bordeaux, quand la plus banale réalité du quotidien bascule dans le surnaturel. Ça s'appelle Entends la nuit, signé Catherine Dufour.
De retour à Paris, une jeune femme de 25 ans, Myriam, y retrouve sa mère qui a perdu son travail après avoir été malade. Une maman qui apprend toute joyeuse que sa fille, elle, est embauchée dans une entreprise pour faire de la veille réseau. Myriam s'attelle à la tâche sans enthousiasme dans un petit bureau au mur humide jusqu'au jour où, via un logiciel interne sur l'écran de son ordinateur, elle entre en contact avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques très british, très mystérieux. C'est le début de ce roman fantastique qui va vous emmener très loin, au-delà, ou plutôt dans les murs, hantés par des spectres liés aux vieilles pierres. C'est étonnant, Entends la nuit, signé Catherine Dufour, un livre, un style aussi, qu'a beaucoup apprécié Ulysse Ronet, libraire chez Mola.
Catherine Dufour, c'est une écriture incroyable parce que c'est une autrice française contemporaine qui a vraiment une fluidité et un goût pour choisir ses mots, qui est à la fois beau, il décrit très bien ce qu'elle veut dire, et à la fois avec un ton qui est humoristique, sarcastique, et qui dénonce aussi certaines choses. Que ce soit question de travail ou de communication avec l'autre, avec la famille, son roman est en quelque sorte un anti-Twilight, parce que cet homme qui est haut placé dans la société réinvente en quelque sorte le mythe du vampire, sauf qu'ici on est plus tourné vers les lémures qui fait partie de la mythologie romaine. Et ça c'est aussi une dénonciation en fait de la romance, de ce que c'est que la fascination pour l'autre, et en même temps l'hostilité qu'on peut avoir par rapport à ça.
Même si vous n'êtes pas au départ un grand adepte de littérature fantastique, vous serez absorbé par cette histoire et ne regarderez plus jamais les murs de nos vieux immeubles de la même manière. Catherine Dufour nous embarque d'un chapitre à l'autre entre le réel et le surnaturel.
Je me suis intéressée aux vieilles pierres et à ce qu'elles peuvent avoir de sensuel. Dans mon livre, toute la sensualité, l'érotisme, même la sexualité, n'est pas l'apanage du corps humain, mais du corps de pierre. Les murs sont doux au toucher, les meubles sont moelleux, le cuir sent très bon. Voilà, je me suis amusée à inverser les valeurs de sensualité et de sensorialité entre la chair et la pierre.
Entends la nuit de Catherine Dufour, c'est un très bon roman fantastique, plein d'humour et de rebondissements.
À noter et à retenir. Merci Stéphane, on vous retrouve demain pour un autre conseil.
Et à suivre à 13h sur Europe 1 dans La France bouge avec Elisabeth Assayag, on parlera de la place accordée aux femmes dans les entreprises.
Ma chère Valérie Darmon, ça sent le retour d'été.
Et oui, je vous le confirme, jusqu'à dimanche, même si demain va résister un petit peu d'instabilité avec quelques averses localement orageuses sur la Corse ainsi que sur les Alpes et la région PACA. Les plus gros orages seront parfois accompagnés de grêles mais éparses partout ailleurs après la dissipation du grisaille du matin. Le temps qui sera très bien ensoleillé du matin jusqu'au soir.
Quelques températures, Valérie ?
Oui, alors le matin, 8 à 16 degrés, jusqu'à 23 autour de la Méditerranée. L'après-midi, 21 à 25 près de la Manche, 26 à 31 ailleurs. Et 33 encore, sous les orages, malgré tout, dans le sud-est.
Merci Valérie Darmon.
Et c'est le rappel des titres de ce mercredi 21 août, François.
Situation de sécheresse exceptionnelle dans le département du Gard. 97 communes ont été placées en situation de crise hydrologique. Le rapport qui pose question, 6 ans après le drame de Brétigny, l'autorité de régulation et de contrôle des voies a inspecté tout le réseau de la Bretagne jusqu'à l'Occitanie. On note des câbles électriques dénudés, victimes de rongeurs, des rails déboulonnés. Mais la direction de la SNCF, en pleine période de retour de vacances, se veut rassurante. S'il y avait eu urgence, on aurait stoppé le trafic. Mais visiblement, il faudra accélérer la rénovation du réseau français, visiblement vieillissant. Et obsolète, premier conseil des ministres de la rentrée autour d'Emmanuel Macron pour lancer les grandes réformes avant une séquence très internationale autour du G7 ce week-end. Nouvel épisode dans la guerre des gangs du rap. L'équipe du rappeur Booba, en plein tournage cette nuit d'un clip, a été agressée par un commando à coups d'armes à feu et de battes de baseball. Aucune piste n'est privilégiée, mais le tournage avait lieu à quelques centaines de mètres de la commune d'où est originaire l'autre rappeur, Caris. Les deux hommes s'étaient affrontés il y a un an dans l'aérogare d'Orly.
Merci François Clos, on vous retrouve tout à l'heure à 18h pour votre grand journal du soir.